SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir de retrouver à nouveau Dr. Romain Fati, qui est Senior Lecturer au School of History, au Research School of Social Sciences à ANU, the Australian National University à Canberra. Bonjour, Dr. Fati.
Bonjour et merci de me recevoir.
Et vous êtes actuellement en France et on va parler de cette campagne des législatives et beaucoup d'hypothèses pour le deuxième tour de dimanche prochain. D'après ce que je comprends, depuis dimanche dernier, beaucoup des candidats arrivés en troisième position se sont retirés pour tenter d'empêcher le Rassemblement national d'obtenir une majorité absolue. Est-ce que vous croyez que ce barrage va tenir jusqu'à dimanche?
Alors, c'est une bonne question. Et je vais vous répondre un peu une réponse de Normand, oui et non. C'est-à-dire que oui, il va tenir dans la mesure où, une fois qu'un candidat s'est désisté, sa décision est finale. Hein, donc on ne va pas revoir des candidats qui se sont désistés revenir. Ce n'est pas possible, il fallait déposer sa candidature. Donc on a dénombré, je crois, le dernier compte, 224 désistements. Hein, dont 134 qui viennent de la gauche et 82 qui viennent du camp présidentiel et du centre, avec trois aussi candidats LR qui sont RN se sont désistés. On va pas revenir sur ces désistements, mais le fait est que on observe maintenant qu'il y aura beaucoup plus de duels que de triangulaires, si bien que le paysage se clarifie. Hein. Il y a déjà 76 députés qui ont été élus, donc ça c'est fait, entre guillemets, et puis il reste maintenant 409 duels dans les 577 circonscriptions, moins les 76 déjà élus, et donc 89 triangulaires. Beaucoup moins de triangulaires qu'attendu, hein, puisqu'on était à plus de 300 triangulaires. Donc le front républicain, entre guillemets, a fonctionné sur le côté élection. Est-ce qu'il va fonctionner dans une nouvelle assemblée? Ça, c'est une autre question.
Docteur Fati, peut-on parler des projections de sièges à l'heure où l'on se parle ce jeudi matin?
Alors oui, on peut, dans la mesure où les désistements ont clarifié les choses dans les circonscriptions. Alors, comme je le dis souvent, moi je suis historien, je me prononce sur le passé et pas tellement sur le futur, mais parfois le passé peut aider à donner des projections pour le futur. Personnellement, je pense que le RN est en mesure de remporter à peu près 200 circonscriptions, hein, ce qui serait bien moins que ce qui était craint, mais quand même historique au regard des élections passées pour les sièges qui avaient été remportés par le Rassemblement National et avant le Front National dans les assemblées précédentes. Les estimations en ce moment sont à fourchette basse pour le RN, 190, fourchette haute, 220. Le groupe ensemble, donc la majorité présidentielle, entre 110 et 135, donc elle perdrait plus de 100 députés. Les Républicains, entre 30 à 50 sièges. Encore une fois, il y aurait des pertes de députés de ce côté-là. En revanche, le nouveau Front Populaire, serait en hausse entre 160 et 180 sièges. Bon, ces prévisions-là, elles sont issues de calculs, de mathématiques par rapport aux circonscriptions. Tout va dépendre des électeurs. Rien n'est joué dans une élection, surtout dans une élection aussi compliquée que les législatives françaises par rapport au mode de scrutin. Et donc cela va dépendre de l'abstentionnisme, ou plutôt de la participation d'abstentionnistes qui d'habitude ne se dérangeraient pas aux urnes et qui la voteraient. Cela va dépendre également, et ça il faut le rappeler, des votants pour l'ancienne majorité présidentielle. Dans les circonscriptions où ces derniers sont privés de candidats et se trouvent face à un duel gauche, extrême droite, où est-ce que ces votants vont aller? On sait très bien que le président Macron a mené une politique plutôt libérale, traditionnellement associée plutôt à la droite qu'à la gauche. On sait également qu'il a pu être élu dès 2017 grâce à des voix de gauche qui, théoriquement et naturellement, devraient se reporter sur le nouveau Front populaire, mais ça ne constitue pas l'entièreté de son électorat. Donc il y a énormément d'incertitudes vis-à-vis des projections que je viens de vous donner, parce qu'elles vont dépendre de chacun d'entre nous.
Et Gabriel Attal appelle au barrage, même avec un bulletin LFI, votre avis ?
Eh bien, mon avis, mais il n'engage que moi, et je tiens à préciser à nos auditeurs, je le fais à chaque fois lorsque je parle de politique, que je ne suis affilié à aucun parti politique, ni en France, ni à l'étranger. La position de M. Attal est extrêmement courageuse. Elle s'inscrit dans une position historique en France, que ce soit en 2022, en 2017, et bien évidemment, pour des personnes de notre génération, en 2002, où il s'agissait de dire que tout était meilleur au FN. Et là, on voit très bien que de manière générale, la position de M. Attal est celle qui est partagée par de nombreux Français et surtout de nombreux dirigeants politiques, à l'exception de certains dirigeants plutôt de droite, comme par exemple l'ancien Premier ministre, M. Édouard Philippe, et comme par exemple M. le ministre de l'économie et du budget, M. Bruno Le Maire. Et oui, évidemment, parce que pour ces deux représentants politiques plutôt marqués à droite, cette élection résulte à la fonte comme neige au soleil de leurs députés. Donc ils n'ont pas vraiment intérêt à... Et puis, par ailleurs, ils savent très bien que leur électorat ne serait pas nécessairement porté vers les candidats LFI. Après, il faut bien faire la distinction, et ça c'est très très important, sur les candidats Nouveau Front Populaire, dans chaque circonscription, ces personnes étiquetées Nouveau Front Populaire sont parfois originaires de LFI, mais beaucoup plus qu'avant, ils sont originaires du Parti Socialiste, ou des Verts, ou d'autres partis de gauche. Donc, là où certains électeurs auraient peut-être difficulté à voter pour la France insoumise, il faut bien qu'ils regardent de quel parti à l'origine provient leur candidat Nouveau Front Populaire. Et enfin, il faut rappeler que la manière dont un groupe se présente aux élections n'a rien à voir avec la manière dont un groupe politique est organisé à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on peut voir un Front populaire uni se présenter aux élections pour gagner des sièges, et une fois élu, se diviser, se scinder pour former un gouvernement qui pourrait théoriquement exclure la France insoumise. Si les socialistes arrivent à avoir de nombreux sièges, si les écologistes arrivent à avoir des sièges au sein du Nouveau Front Populaire, et on sait qu'ils ont négocié à la hausse le nombre de sièges auxquels ils pouvaient prétendre, si la majorité présidentielle ne s'effondre pas totalement, et si les Républicains sont prêts à collaborer, on pourrait envisager un gouvernement de Front Républicain qui exclurait le Front National et qui exclurait la France Insoumise. Alors effectivement, ce serait probablement un gouvernement minoritaire, mais un gouvernement est toujours meilleur que pas de gouvernement. Et donc ce gouvernement, effectivement, serait probablement forcé de gouverner par décret, par 49-3 en réalité, puisqu'il serait en difficulté numérique. Ça fait beaucoup de si, mais on est dans une situation où réellement tout est possible.
Ce que souhaite M. Attal, est-ce que c'est la même chose qu'un vote utile ?
Oui, alors dans le vote utile, hein, y a un certain degré, comment dirais-je, une part de jugement dans ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. M. Attal, en réalité, il tacle un peu le président de la République qui, avant cette élection, avant le premier tour, avait appelé à voter contre les extrêmes. Je, personnellement, et vis-à-vis de l'histoire que nous connaissons, je pense qu'il est très dangereux de parler des extrêmes et de mettre dos à dos LFI et le Rassemblement National. Effectivement, il y a des errances au parti LFI. Effectivement, la figure de Jean-Luc Mélenchon divise. Et de ce point de vue-là, il est donc absolument hors de question que M. Mélenchon devienne Premier ministre. Ça, on le sait. Tous les partis alliés à LFI ont déjà plus ou moins posé cette condition et ils en ont parlé dans les médias. Bon, exposer ces deux extrêmes à dos à dos, c'est quand même très dangereux parce que la tradition de laquelle est issue le Rassemblement national, anciennement Front national, n'a rien à voir avec celle dont est issue la France insoumise. Donc, présenter de la même manière un parti d'extrême gauche classique, entre guillemets, ou de gauche dure, avec un parti très clairement issu de l'extrême droite. L'extrême droite a des connotations historiques totalement différentes. Ce n'est pas à moi de rappeler que d'anciens leaders du Front National ont été traînés devant les tribunaux, pour avoir nié l'Holocauste, pour avoir encouragé à la haine raciale. Il n'y a qu'à regarder la famille Le Pen, hein, le père en premier, pour connaître cette histoire qui est quand même très liée à l'effondrement des extrêmes droites après Vichy, que M. Le Pen a essayé de rassembler dans son parti qu'il a créé en 1972 de mémoire. Donc, l'histoire du Rassemblement national est celle d'un parti d'extrême droite dur, raciste, et dont certains cadres avaient collaboré effectivement avec l'ennemi ou se sont retrouvés plus tard à torturer en Algérie. Donc voilà, ce n'est pas du tout la même chose côté LFI, quand bien même on en penserait beaucoup de mal.
Et docteur Fatih, y a-t-il eu ingérence étrangère dans cette campagne des législatives? Y a-t-il des influences de la Russie sur ces élections?
Alors, oui et non. Oui, dans la mesure où effectivement elles sont avérées. Hein, ça, sur Internet, par exemple, l'influence des trolls et des bots, etc. Ça, très clairement. Mais la Russie n'a pas tellement eu le temps de s'organiser dans la mesure où c'était une campagne express parce qu'elle était régie par l'article 12 de la Constitution qui prévoit que l'Assemblée, une fois dissous, doit y avoir des élections entre 20 et 40 jours après cette dernière. Donc si on avait eu une campagne effectivement de 2, 3, voire 4 mois, des pays qui ne nous tiennent pas dans leur cœur, auraient effectivement pu s'organiser avec une force de frappe bien supérieure. Donc oui, il y a ingérence étrangère, mais ça malheureusement c'est le lot de toutes les élections contemporaines dans les démocraties que nous connaissons, et pas que la Russie malheureusement. Après, là je pense qu'effectivement, vu le délai de campagne, c'était un peu moins marqué que ce ne fut le cas en 2022 ou en 2017.
Et puis, j'ai lu qu'il y avait des possibilités de débordement dans les rues si le RN ne gagne pas la majorité absolue, et peut-être même des semaines agitées avec les Jeux Olympiques. Et puis, il y avait ce risque à la guerre civile, comme avait fait allusion le président Macron. Qu'en pensez-vous?
Très franchement, je n'y crois pas. Alors, je peux me tromper, mais alors, il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, moi, ça fait plusieurs semaines que je suis en France, et j'ai vraiment du mal, hein, et c'est ce que j'explique aux médias anglo-saxons, j'ai vraiment du mal à mettre en parallèle la crise politique majeure que nous vivons avec la vie quotidienne. Je suis allé à Amiens, à Lille, je suis en Bretagne, je suis allé à Paris. Je vois des gens qui mangent des glaces dans la rue, il fait à peu près beau. Il y a les soldes en ce moment, il y a l'Euro de football, donc il y a beaucoup de gens dans les bars. La fête de la musique, c'était incroyable cette année. Et donc j'ai vraiment du mal à réconcilier cette image quand même d'un peuple qui n'a pas l'air divisé, qui a l'air plutôt heureux, une inflation inférieure à celle des autres pays européens, un taux de chômage inférieur à ce qu'il a été dans le passé, et la crise politique qui est réellement une vraie crise absolument majeure comme on n'a pas vu depuis des décennies. C'est assez particulier. J'étais là en 2019 lors des Gilets jaunes, et là, effectivement, il y avait une vraie tension insurrectionnelle, révolutionnaire. Donc, est-ce que j'y crois ? Là, présentement, je ne le vois pas. Est-ce que après une élection, c'est possible? Je ne pense pas, parce que la majorité des électeurs du Front National en ce moment, c'est un vote ras-le-bol, c'est un vote sanction, ce n'est pas nécessairement un vote, c'est un vote, on va dire un petit vote, vous savez, pour embêter dans les urnes. Moi, je ne pense pas que la majorité des électeurs du Front National se lèvent, vent debout, pour aller faire la révolution. Déjà, ce n'est pas cohérent avec la tradition politique dans laquelle ils s'inscrivent. La dernière fois qu'on a vu ça, c'est le 6 février 34. Et puis on sait sur quoi ça aboutit. Et puis par ailleurs, je ne pense pas qu'ils soient, et c'est peut-être un jugement de ma part, suffisamment politisés pour faire cela. Donc cette situation insurrectionnelle, elle se produira peut-être, mais si elle se produit, pour moi, ce serait après l'échec d'un gouvernement tremblant, quel qu'il soit, après plusieurs mois au pouvoir. Pour l'instant, je ne vois pas ceci se produire le 8 juillet ou dans cette semaine qui la suivra. Je peux me tromper, cependant j'espère que je ne vais pas me tromper.
Docteur Fatih, merci à nouveau d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS en Australie.
Je vous remercie.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.